Europe 1, édition spéciale. Julien Bugier.
Avec la prise de parole dans quelques instants, dans quelques secondes maintenant du chef de l'État, parole très attendue, l'allocution du président de la République avec cette perspective dont d'un nouveau confinement généralisé. On est ensemble jusqu'à 21h. Un dernier mot, Francis Palombi, avant d'entendre le président. Vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. Est-ce que vous craignez la colère et la désobéissance de vos affiliés?
La colère, oui. La désobéissance, je ne le pense pas. Les commerçants ne sont pas des... Les petits commerçants indépendants, sans que ce soit péjoratif, n'ont pas la mentalité de descendre dans la rue, de barrer les routes. Ce n'est pas dans notre philosophie. J'ai encore, si j'ai un dernier mot à dire, encore un espoir que tout ne fermera pas.
Bien, merci de nous avoir accompagnés ce soir, professeur Mégarban, chef de service en réanimation à l'hôpital Lariboisière. Quelques mots pour terminer. Si reconfinement il y a, pourrait-il durer jusqu'à Noël? Et pourra-t-on passer un Noël, j'allais dire ordinaire, en tout cas un Noël en famille?
En tout cas, si reconfinement il y a, il faut en profiter pour réinsister sur l'importance des mesures barrières, mettre en place les mesures de prévention. À nouveau, c'est dommage d'arriver à cette situation alors que nous disposons de moyens parfaitement efficaces pour prévenir la contamination. Ce sont les mesures barrières, le port du masque universel et l'aération des pièces. Et en fait, à nouveau, nous avions passé le message de réduire les réunions, les rassemblements familiaux et amicaux et de mettre le masque, y compris lorsqu'on se rassemble en famille, pour éviter des morts inutiles.
Bien, merci infiniment, professeur, également, de nous avoir accompagnés jusqu'à 20h. Il est 20h dans quelques secondes et on va suivre donc en direct sur Europe 1 l'allocution du chef de l'État. C'est une intervention évidemment très attendue par l'ensemble des Français. On est à un tournant, un virage dans cette épidémie, dans la lutte contre cette pandémie. On écoute donc le chef de l'État. À tout à l'heure.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, la dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Nous y sommes. Et si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Alors quelle est à cette heure la situation de notre épidémie ? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales. À la différence de la première vague, l'ensemble des régions se trouve aujourd'hui au seuil d'alerte. Dans de nombreux endroits, pour prendre en charge les patients Covid-19, nous avons commencé à déprogrammer des opérations du cœur ou du cancer, parfois les mêmes qui avaient dû être décalées au printemps. Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles, et je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables, et elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Elles se révèlent toutefois insuffisante pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe. Notre stratégie a été définie dès l'été, c'était de vivre avec le virus. Et il s'agissait de maîtriser sa circulation en nous appuyant sur nos capacités pour tester, alerter, protéger, sur les gestes barrières, sur la protection des plus fragiles et des mesures de ralentissement de l'épidémie territorialisées, au plus près du terrain. C'est ce que nous avons fait depuis le mois d'août. Avons-nous tout bien fait? Non, et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer. Mais nous avons fait tout notre possible, et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu des informations qui étaient les nôtres, la bonne. Elle fut d'ailleurs celle de tous les pays européens. Nous aurions pu aller plus vite au début sur les tests, mais depuis plusieurs semaines, nous sommes un des pays d'Europe qui testent le plus. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières, en particulier au sein de la famille ou avec les amis qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Faut-il nous le reprocher maintenant? Mais surtout, il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous en Europe surpris par l'évolution du virus. Certains pays comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas ont pris plutôt des mesures plus dures que les nôtres. Pourtant, tous, nous en sommes au même point. Débordés par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront très vite saturés sans que nous ayons cette fois la possibilité de transférer beaucoup de patients d'une région à une autre parce que le virus est partout. Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route, là entre deux malades du Covid. Ce qui, compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la France, de ce que nous sommes, est inacceptable. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Et en dépit des polémiques, en dépit de la difficulté des décisions à prendre, je l'assume pleinement devant vous ce soir. Quels sont nos objectifs? D'abord, c'est le premier, protéger les plus âgés, les plus fragiles, celles et ceux qui sont atteints de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières victimes du Covid-19. L'âge est le facteur prépondérant. 85% des malades décédés ont plus de 70 ans. Notre deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Je l'ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est rare, les plus jeunes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans. Ils touchent donc sous des formes graves toutes les générations. Et nous ne savons pas dire aujourd'hui quelles sont les séquelles à long terme. Perte d'odorat, perte de goût, difficultés respiratoires. Contracter ce virus n'est jamais anodin, même lorsqu'on a 20 ans. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Ils ont ensuite dû redoubler d'activité durant l'été pour rattraper les actes reportés au printemps. Et malgré la fatigue, ils font face aujourd'hui à cette montée soudaine des urgences. Nous leur devons de prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du virus. Si nous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux. Il s'agit, troisièmement, de protéger les plus modestes, qui, parce qu'ils vivent dans des lieux plus exigus, parce qu'ils occupent des emplois précaires, sont les plus touchés par le virus sur le plan sanitaire. Mais ce sont aussi les plus touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise. Enfin, il nous faut protéger notre économie. Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie que certains voudraient instaurer. Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher, sans jamais perdre de vue un principe intangible. Pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine. Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs? Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective, c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs. Ça n'est pas non plus notre intérêt. Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. cette voix n'est pas non plus au moment où je vous parle utilisable. D'abord, elle suppose une discussion éthique. Mais d'une part, nos aînés, comme les personnes vulnérables, ont souvent besoin d'une assistance extérieure pour leurs soins, leur ménage, la livraison de leurs repas. Certains vivent aussi avec leurs proches, leurs enfants, souvent par manque de moyens. Et donc, créer une forme de bulle autour d'une génération, de certaines personnes, comme une barrière entre les générations, n'est pas réaliste et à ce stade insuffisant. D'autre part, le virus se développe aussi et développe des formes graves chez les plus jeunes. Et donc, confiner les seules personnes âgées est inefficace parce que le virus circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. Et donc, nous ne pourrions pas protéger nos soignants, nos urgences et même à terme nos aînés avec cette stratégie. Elle peut être pertinente, elle n'est pas suffisante. Nous pourrions également faire, en quelque sorte, le pari de tout miser sur la stratégie du tester, alerter, protéger. Après tout, nous réalisons 1,9 million de tests par semaine. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la matière. Et grâce au travail remarquable de l'assurance maladie, des agences régionales de santé, 100 000 appels sont passés chaque jour pour identifier les cas contacts et briser les chaînes de contamination. Mais si ce système peut être efficace, avec quelques milliers de cas par jour, nous avons aujourd'hui entre 40 et 50 000 contaminations quotidiennes dépistées. Sans doute en réalité le double. Ce système n'est plus efficace. Et d'ailleurs, aucun pays européen ne le retient plus aujourd'hui. Quant à la piste de l'augmentation de nos capacités de réanimation, que certains évoquent comme une piste qui nous permettrait de ne pas prendre des mesures difficiles aujourd'hui, je vais vous dire très clairement, nous sommes en train de le faire, mais là non plus, ça n'est pas une bonne réponse. Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les masques, les blouses, les gants, tout le matériel nécessaire, parce que nous avons appris de nos insuffisances, de nos manques durant la première phase. Nous avons aussi formé près de 7 000 infirmiers et médecins pour pouvoir travailler en réanimation. Et nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5 000 lits avant la première vague à 6 000 aujourd'hui, et nous allons les porter au-delà de 10 000 lits en réanimation. Donc, un effort colossal a été fait de formation, d'investissement. Mais il n'est pas suffisant face à cette vague. Nous agissons aussi sur le moyen terme. Le Ségur de la santé, qui correspond à 8 milliards d'investissements par an investis dans l'hôpital et notre santé, permettra de renforcer l'attractivité des métiers. Mais il faut 5 ans pour former un infirmier réanimateur, 10 ans pour former un anesthésiste. Il n'y a pas de solution magique. Ce n'est pas en quelques mois que nous pourrons créer véritablement une capacité totalement différente. Nous ne pourrons pas non plus, compte tenu du fait que les autres pays européens sont saturés, faire appel à une main-d'œuvre étrangère à court terme. Du reste, quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits, et malgré l'effort de doublement que nous avons réussi, qui peut sérieusement vouloir que des milliers de nos compatriotes passent des semaines en réanimation avec les séquelles que cela implique sur le plan médical ? Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir ? Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape, et le gouvernement demain les détaillera lors d'une conférence de presse. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint. Et donc, il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour que les familles puissent s'organiser. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de leurs pertes en chiffre d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines. Et un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises qui, je le sais, redoutent plus que tout les prochaines semaines. Par rapport à mars-avril, nous avons, je le disais, appris et nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles vont évoluer. D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, l'activité continuera avec plus d'intensité. Ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Je vous invite donc, dans la mesure des possibilités de chacun, à participer de cet effort en travaillant, en soutenant les entreprises aussi qui, proches de chez vous, ont innové à travers des commandes à distance, la vente à emporter ou la livraison à domicile. Le gouvernement, d'ailleurs, accompagnera les très petites et petites entreprises, comme les moyennes entreprises, les artisans aussi, qui entreprendront des démarches de numérisation. Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes et, sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. Bien évidemment, les Français de l'étranger resteront libres de regagner le territoire. Dans les ports, les aéroports, pour les déplacements internationaux, des tests rapides obligatoires seront déployés pour toutes les arrivées. Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu'on soit certain qu'il n'est pas porteur du virus. Enfin, pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus au printemps, où des personnes en fin de vie se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite et en EHPAD seront cette fois autorisées dans le strict respect des règles sanitaires. Je souhaite aussi que les personnes en situation de handicap puissent bénéficier des souplesses dont elles ont besoin. Quant aux cimetières en cette période marquée par la Toussaint, ils demeureront ouverts et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches. Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous et chacun a son rôle à jouer. Aux personnes à risque, aux plus vulnérables, aux personnes âgées de plus de 70 ans, je demande une vigilance accrue. Moins de réunions avec la famille, avec les amis, même si c'est un crève-cœur. Et le respect de la distanciation physique, y compris au domicile, le port du masque systématique lorsqu'on se trouve à l'intérieur en présence d'une autre personne. Même un proche, même un enfant ou un petit enfant, c'est très important pour vous. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel. Mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social, de tous les professionnels de santé de ville pour assurer une prise en charge précoce des patients dès les premiers symptômes et pour éviter que ne se développent des formes complexes. Nous avons besoin de nos élus. Nos maires ont joué un rôle essentiel et je les salue ici. Maires, présidents et présidentes d'intercommunalités, de métropoles, élus de terrain, nous allons avoir besoin de vous de manière encore accrue pour proposer et aller plus loin en matière de prévention, mobiliser nos associations pour accompagner les personnes les plus isolées, les moins bien informées et assurer la bonne application des mesures prises, que ce soit auprès de nos jeunes dans le temps périscolaire ou pour accompagner les personnes les plus vulnérables ou les plus âgées. Nous avons besoin de nos forces de sécurité intérieure pour garantir l'application des mesures, de nos forces de sécurité civile pour déployer des plateformes de tests et aller au contact de la population. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l'esprit citoyen de tous. Restez au maximum chez vous, respectez les règles. Une fois encore, je vous le dis, la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d'entre nous. Comment cette nouvelle étape va se dérouler dans le temps ? Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Dès demain, un débat suivi d'un vote se tiendra au Parlement. Dès demain, le gouvernement détaillera toutes ces mesures. Nous devons nous honorer de cette transparence et du fait que des décisions difficiles se fassent dans un cadre démocratique où toutes les oppositions peuvent s'exprimer. Dès demain également, je participerai à un Conseil européen pour coordonner les réponses sanitaires des différents pays de l'Union. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes, en particulier sur les commerces. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer. Je sais que pour les commerces de centre-ville, je demande un très gros effort. Tenons-le avec beaucoup de rigueur pendant 15 jours. Si d'ici 15 jours, nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons alors réévaluer les choses et espérer ouvrir certains commerces, en particulier dans cette période si importante avant les fêtes de Noël. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année. Notre objectif à terme est simple, réduire très fortement les contaminations et passer de 40 000 contaminations par jour à 5 000, ralentir significativement le rythme des entrées à l'hôpital et en réanimation. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement redéployer une stratégie testée, alertée, protégée, renouvelée, complétée. C'est pourquoi, durant ces semaines, nous allons aussi produire des efforts massifs pour mettre en place beaucoup plus de plateformes de tests à travers des innovations et une nouvelle organisation. Nous devons collectivement déployer beaucoup plus massivement l'application Tous Anti-Covid, qui sera un instrument de la sortie de cette phase de confinement. Tests en 30 minutes, meilleur traçage, isolement plus efficace des personnes positives, qui est un sujet sur lequel nous devons continuer à réfléchir. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre demain de tenir jusqu'au vaccin à l'été, nous disent les scientifiques. Mes chers compatriotes, nous avons tous été surpris par l'accélération soudaine de l'épidémie, tous. Si je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division. Cette période est difficile, parce qu'elle éprouve justement notre résilience et notre unité. Mais elle est un révélateur de ce que nous sommes, des femmes et des hommes qui sont liés les uns aux autres. Très peu de générations auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble. Cette pandémie historique, les crises internationales, le terrorisme, les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent liée à la première vague. Mais j'ai confiance en nous, en vous. Confiance en notre capacité à surmonter cette épreuve. Nous devons tenir, chacun à notre place. Dans la transparence, le débat, dans la détermination pour appliquer les règles que nous nous fixons, et en nous serrant les coudes, à nouveau nous nous relèverons, si nous sommes unis, et nous serons unis. Nous avons besoin les uns des autres, nous sommes une nation unie et solidaire, et c'est à cette condition que nous y arriverons. Nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je serai là, nous serons là. Et nous y arriverons tous ensemble. Vive la République et vive la France.
Europe 1, édition spéciale, Julien Bugier.
20h22, voilà pour cette allocution et ce que l'on redoutait, ce que l'on craignait ou ce que l'on attendait est confirmé. La France passe en reconfinement avec les écoles ouvertes, les collèges également, les lycées, les entreprises, nous a dit le président de la République, pourront fonctionner et les EHPAD pourront être visités pour une durée qui va courir jusqu'au 1er décembre au moins. Des tests seront déployés dans les aéroports, le télétravail est généralisé et les services publics resteront ouverts. On en parle donc ce soir, évidemment, avec nos invités. Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Ève Roger qui nous a rejoint, chef du service Société d'Europe 1, bienvenue Ève.
Bonjour.
Emmanuel Dutheil, en charge du service économique d'Europe 1,
bonsoir.
Bienvenue Emmanuel. Et Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, qui est toujours avec nous. On entendra dans un instant, monsieur, votre réaction. Les inquiétudes que vous aviez tout à l'heure sont malheureusement confirmées pour les petits commerces qui vont donc devoir, à partir de vendredi, fermer leurs portes pour une durée d'au moins un mois. Peut-être les annonces d'abord avec vous, Ève. Mm-hmm. Ce que l'on retient, et c'est une surprise, c'est que les collèges et les lycées, on parlait des écoles, mais les collèges et les lycées pourront donc rester ouverts.
Oui, c'est très inattendu. Ça fait quand même 12 millions de jeunes écoliers, collégiens, lycéens dehors, quoi. Donc pour un confinement qui se veut brutal et drastique, ça peut paraître un peu étonnant, d'autant qu'on sait maintenant que le comportement par rapport au virus des jeunes ados est le même que celui d'un adulte. Donc c'est vrai que c'est très surprenant. Et on voit bien que le principe, c'est vraiment de permettre aux parents. Alors, normalement, quand on est lycéen, on doit pouvoir se débrouiller tout seul à la maison, mais de permettre aux parents au moins d'aller travailler.
Il y a deux aspects dans ce qu'a dit le président de la République. Il y a l'aspect de permettre aux entreprises et donc aux salariés de continuer de travailler. Et il y a l'aspect du décrochage. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé à l'issue du premier confinement, qui avait quand même duré 2 mois. On s'était aperçu qu'il y avait des milliers d'enfants, notamment en Seine-Saint-Denis, qui n'étaient pas retournés à l'école à l'issue du confinement. C'est un élément qui a dû compter.
C'est vrai, mais c'est vrai aussi pour les lycéens aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes en seconde aujourd'hui, ça veut dire toute la fin de la troisième, vous n'avez pas passé le brevet des collèges, vous n'êtes plus en contact avec les profs, l'enseignement à distance a été compliqué. Mais le décrochage aussi se passe plutôt dans les écoles primaires. Donc c'est vrai que ça aurait pu ne concerner que les élèves de l'école primaire.
Bien, Martin Blachier, on en parle depuis 24 heures maintenant de cette possibilité de reconfinement. Beaucoup de Français n'avaient pas vu venir, hein. Faut dire ce qui est quand même. C'est vrai qu'on s'attendait à des mesures de durcissement. C'est un reconfinement, depuis 24 heures on en parle, mais avant on était encore dans l'expectative d'un durcissement des conditions du couvre-feu. C'était vraiment, vraiment nécessaire d'un point de vue sanitaire.
Ouais, il était nécessaire qu'une mesure de ce type-là soit prise. Après, on peut discuter des différents détails.
Des modalités, oui.
Et d'ailleurs, c'est là que je trouve que la présentation est un petit peu biaisée, parce que tout ce que dit le président est vrai. Je veux dire, la plupart des choses sont intéressantes, mais je trouve que c'est tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'on aimerait se dire, laisser quelques commerces ouverts, quel est l'impact ? Parce qu'en fait, on est dans une notion de bénéfice-risque systématique. On doit peser ce que ça coûte. Est-ce que ça va nous rapporter ? Et en fait, on a l'impression que cette espèce de réflexion plus fine, on ne l'entend pas en fait dans ce discours-là. On a l'impression qu'on n'a pas le choix, il faut absolument faire ça. Ça, c'est impossible, mais je suis désolé. Par exemple, laisser les coiffeurs ouverts.
Ouais.
Quel est l'impact ?
Ouais.
Quantifier, c'est-à-dire que c'est bien de nous dire, mais est-ce que ce sera un drame ?
On attend les précisions demain du Premier ministre, une conférence de presse est prévue dans l'après-midi normalement, on aura des décisions, des précisions sur tous les commerces qui peut-être auront des exceptions pour ouvrir. On attend aussi des précisions sur la mobilité des salariés pour aller travailler. Je ne sais pas vous, Emmanuel Dutheil, mais moi, je n'ai pas tout à fait tout compris. C'est-à-dire que les entreprises pourront continuer à travailler, en télétravail principalement, mais ça veut dire que si l'entreprise ne peut pas passer en télétravail, on a le droit d'aller physiquement à son entreprise ?
Je pense que malgré tout, là, il a été assez clair sur le côté, je pense en tout cas, à entendre le président de la République, les coiffeurs vont être fermés demain. Il dit très clairement, en revanche, qu'il y a une clause de revoyure à 15 jours, ce qui est un geste obtenu, je peux vous dire,
pour
par Bruno Le Maire, pour tous les commerces. Mais là, principalement, c'est un message, justement, pour ce que vous disiez à l'instant, pour ces commerces où on peut se dire qu'on ne prend pas un risque énorme en allant chez le coiffeur. Alors, effectivement, il dit que, par exemple, les usines vont pouvoir continuer à tourner. On va prendre un exemple tout simple, Peugeot. Ils ont des usines, c'est bien gentil. Mais s'ils n'ont pas de concession derrière pour vendre les voitures, ça ne sert à rien de faire tourner les usines.
Donc il y a l'export.
C'est là.
On peut se dire qu'il y a l'export.
Enfin bon, l'export pour les voitures qu'on produit en France, ça serait, hein, si on les produisait beaucoup en France pour les faire exporter. Mais du coup, ça va être intéressant demain de voir cela. On voit là très clairement, même si le président de la République a dit qu'il n'est pas question d'opposer le sanitaire et l'économique, qu'ils ont essayé de trouver le chemin le plus étroit possible pour réussir à quand même concilier les deux. Et là, très clairement, c'est vous allez au travail, bah vous restez déjà en télétravail si vous pouvez télétravailler. Si ce n'est pas le cas, parce que si vous avez un job de production, vous allez au travail. Et si vous êtes vendeur dans une boutique, si vous êtes coiffeur, si vous êtes fleuriste, si vous êtes dans tous ces métiers, bah oui, là, malheureusement, et il le dit très clairement ce soir, ça sera extrêmement compliqué pour vous. mais ce sera...
Mais a priori, donc, ce que vous avez compris, comme moi j'imagine, on attend les précisions de demain, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui nécessitent des précisions. Si on est employé de bureau en province, dans une grande ville, dans une petite ville, et que le télétravail n'est pas possible, on pourra aller travailler à son bureau.
Bah, tout dépend dans quelle fonction vous êtes. Mais oui, si votre entreprise est ouverte, vous pourrez, semble-t-il, aller travailler. Il y a un élément capital, et je pense que M. Palombi le dira aussi encore mieux que moi, mais là, il faut voir qu'ils font une croix pour l'économie sur Noël, puisque c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'on irait jusqu'au 1er décembre. Il y a un événement qui est devenu extrêmement important en France, qui s'appelle le Black Friday. Ouais. C'est le jour de consommation le plus important de l'année en France. Là, ça y est. C'est-à-dire que qui a gagné ? C'est Amazon qui va faire le Black Friday tout seul dans son coin et quelques plateformes françaises qui tenteront de faire quelques chiffres à côté.
Réaction, Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. D'abord, peut-être, vous rebondissez après sur ce que vient de dire Emmanuel Dutheil sur la puissance et la part de marché qui va être donnée aux commerces en ligne. C'est inévitable. D'abord, votre réaction, votre déception, j'imagine, votre colère aussi face à cette mesure radicale qui va toucher tous les commerces de France.
Quand il s'agit d'évoquer, bien sûr, la santé des Français... des morts en perspective supplémentaire, on ne peut pas rester insensible. Je suis un être humain comme vous, comme nous tous, et on n'a pas envie de mourir. On a envie de vivre encore le plus longtemps possible. Mais là où je me suis trouvé très déçu, c'est que, comme l'a dit le docteur, il n'y a pas eu de discernement plus approfondi. Alors c'est vrai qu'on a encore la chance, on a encore la période de demain, où le Premier ministre va repréciser, recadrer, mais on va vers, si ça dure que 15 jours, mais on va vers une sorte de total déséquilibre, c'est-à-dire qu'on atteint au plus haut niveau le commerce physique au profit d'un commerce numérique. Seulement, je demande au président de la République, enfin je lance un appel, au moins qu'il y ait un peu de décence. Vous croyez que dans une situation aussi grave, où les commerces, depuis ce soir, vont fermer demain soir, c'est normal de laisser ces pure players lancer des opérations phénoménales sur le jouet, sur le Black Friday? Moi, je pense que ce serait décent que ces gens-là, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire fermer un commerce virtuel, parce que les gens ont quand même besoin de se nourrir, ça peut être des solutions, mais au moins qu'il n'y ait pas en plus des grosses promotions fracassantes qui atteignent encore un peu plus, indirectement ou directement, la vie des très petites entreprises. C'est vraiment un grand déséquilibre et ça oppose les formes de commerce entre elles. Ce n'est pas en l'honneur du commerce numérique. Vu sous cet angle-là.
Bien. Merci Francis Palombi d'avoir réagi en direct dans Europe Soir, président de la Confédération des commerçants de France. On va vous libérer et accueillir dans un instant à cette même place l'économiste Christian Saint-Étienne. Je voudrais qu'on écoute à nouveau ce qu'a déclaré le président de la République et puis on réagira les uns et les autres d'abord sur l'effort qu'il demande aujourd'hui aux Français.
Nous sommes tous en Europe débordés par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées.
Bien, Christian Saint-Étienne nous a rejoint. Bonsoir Christian, bonsoir. Merci d'être avec nous pour commenter ces annonces importantes pour la vie des Français et pour l'économie française. On va en parler dans quelques instants. D'abord, réaction Martin Blachier, médecin épidémiologiste, spécialiste en santé publique. On évoquait tout à l'heure avec Ève Roger le fait que les collèges, lycées, c'est une surprise, et les écoles, mais on s'y attendait, resteraient ouverts. Est-ce que d'un point de vue épidémiologique, justement, c'est une bonne idée ? Ça représente un risque.
C'est sûr que ça représente un petit risque. Et encore une fois, on voit là que, mine de rien, on est quand même dans un équilibre. Donc c'est un équilibre qui a été choisi. Moi, je le comprends tout à fait et je le soutiens, cet équilibre. Je ne pense pas que les collèges et les lycées soient le vecteur principal et favorable de l'épidémie, ça en est un. Mais je pense que ce n'est pas le vecteur principal. On sait que c'est essentiellement en dehors.
Y compris chez les lycéens, parce qu'on disait que les jeunes enfants étaient moins porteurs du virus, moins contaminateurs d'une certaine manière. Mais c'est le cas aussi pour les lycéens ?
Non, non, les lycéens se comportent à peu près comme des adultes. Après, ils ont un protocole avec des masques dans les salles de classe. On essaye à peu près d'aérer, malgré le fait que ce soit l'automne et l'hiver, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est sûr que c'est une concession qu'on fait au virus de laisser les collèges et les lycées ouverts sans être une concession considérable. Mais c'est une petite concession qu'on fait au virus.
Un mot également, Monsieur Blachier, sur le tableau général qu'a dressé le Président de la République. 9000 patients, dit-il, en réanimation à la mi-novembre. Il a indiqué que si rien n'est fait, en l'état actuel des choses, il y aurait 400 000 morts. Ce sont des prévisions que vous partagez ?
Je trouve qu'elles sont un peu hautes. Moi, quand j'avais fait mes simulations, vous vous rappelez, quand c'était tout sonne, je disais que plutôt, si on essayait quand même de faire un minimum, attention, parce que 400 000 morts, c'est laisser courir, mais personne ne pense qu'on va laisser complètement courir. Donc je pense que c'est largement exagéré. Moi, je parlais plutôt de 230 en comptant les morts qui ont déjà eu lieu. Et d'ailleurs, quand on fait les calculs à partir de ce qui s'est passé dans les villes où le virus est passé, on n'a strictement rien fait, on n'arrive pas à ces chiffres qui sont vraiment considérables. Je pense que ça prend en compte aussi le fait que les patients n'auraient plus de place en réanimation, donc le taux de mortalité augmenterait de façon considérable. Mais encore une fois, je trouve que c'est une manière un peu bizarre de présenter les choses, parce que personne n'a jamais parlé de laisser courir le virus complètement. Je ne vois pas pourquoi il parle de ça, en fait. Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'utilité. À part
ma responsabilité, a-t-il dit, est de protéger tous les Français. Je l'assume. Confiner les personnes âgées, car c'est vrai que ça a été évoqué. Vous avez même parlé vous-même, sur d'autres plateaux, dans d'autres radios, du choc générationnel et de la responsabilité aussi générationnelle des plus âgés vis-à-vis des plus jeunes pour les années à venir et pour l'héritage de cette crise qui va coûter très cher aux finances publiques. Il a dit confiner les personnes âgées seules est un mauvais choix. Vous partagez cette analyse ?
Il a utilisé un argument qui est de dire qu'il y aurait quelques patients jeunes qui seraient atteints de formes sévères également. Il y a toujours effectivement un certain nombre de patients jeunes qui
35%
sont...
des personnes en réa ont moins de 65 ans.
Oui, mais elles ont quoi ? Elles ont entre 50 et 65 ans et des comorbidités. La réalité des patients de 35 ans qui sont en réanimation et qui n'ont pas de facteur de risque, il y a peut-être 2-3 cas exceptionnels. Mais comme il y a des gens qui meurent quand ils montent dans leur voiture... C'est pour ça que, en fait, le problème que j'ai, c'est que c'est comme si on n'était pas en train de faire des arbitrages, mine de rien, sur des chiffres et sur des nombres. Et c'est ça la réalité. Mmh. Et là, je trouve qu'il y a une présentation extrêmement sensible des choses. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on prend des décisions. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un certain nombre d'arbitrages. Le confinement va entraîner un certain nombre d'effets secondaires. Il n'en a pas du tout parlé. Donc on voit quand même... que c'est pas très équilibré comme manière de présenter les choses. Je trouve que c'est pas totalement honnête intellectuellement la manière dont il présente les choses.
Bien, c'est une décision politique. Il présente aussi les choses pour appuyer sa décision politique. Avant de vous entendre, Christian Saint-Etienne, puisqu'on parle de l'école, on est en ligne avec Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat des enseignants SEUNSA et directeur d'une école primaire à Paris. Bonsoir monsieur, merci de nous accorder quelques instants. D'abord, votre réaction à cette décision du président de la République de laisser les établissements scolaires ouverts ?
Je crois qu'on avait très clairement mesuré en fait les effets lors du premier confinement qui avait été assez dévastateur, notamment pour certains publics particulièrement fragiles de l'éducation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y a un certain nombre, bien sûr, de questions qui vont se poser, notamment pratiquement sur quelles seront effectivement les mesures prises pour protéger et les élèves et les personnels. Donc là, on va être en attente des annonces qui seront faites sans doute demain par le Premier ministre lors de la conférence de presse.
Il y a une inquiétude, vous pensez, du personnel enseignant que l'économie dans son ensemble soit à l'arrêt pour éviter les contacts sociaux, pour éviter les contaminations, et que vous, les enseignants, les professeurs, vous êtes d'une certaine manière en première ligne et exposés à ce risque.
Oui, je crois que les personnels enseignants, ils sont tiraillés par deux choses. Ils ont bien sûr la préoccupation, mais comme l'ont aussi les personnels soignants, c'est-à-dire d'être exposés directement au risque d'une épidémie. On sait que ça circule peu dans les établissements du premier degré, en maternelle, en primaire, mais par contre, on sait qu'en collège et en lycée, ça circule activement, et donc il faudra de vraies mesures de renforcement de la protection des personnels. Et à côté de ça, il y a une vraie préoccupation parce que on a déjà vécu avec plusieurs mois sans école pour beaucoup d'élèves, et effectivement, recommencer une deuxième période d'interruption dans la formation initiale des élèves, ça aurait été extrêmement compliqué également. Ils sont vraiment tiraillés par ces deux. Et notre rôle, nous, en tant qu'organisation syndicale, ça va bien sûr être de demander au ministère de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer au maximum la sécurité des personnels et des élèves.
Ça veut dire un protocole renforcé, pour parler clair, Gilles Langlois?
Tout à fait. Alors, on a déjà vu...
Je me permets, puis je vous laisse répondre, parce qu'il y a un élément que le président de la République n'a pas évoqué, dont on parle depuis maintenant plusieurs jours, l'obligation des masques pour les enfants dès 6 ans. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Alors, ça, on sait que ça va être compliqué hein, pour tous les personnels qui le portent déjà et en élémentaire. On sait que c'est compliqué hein, pour que ce soit bien utilisé effectivement par les élèves. Après, nous ne sommes pas médecins et si c'est une mesure qui est capable de maintenir, même si on sait qu'elle ne sera pas forcément, que les masques ne seront pas toujours nécessairement très bien mis, que les enfants vont nécessairement y toucher, si ce sont des mesures qui sont préconisées par le corps médical, on n'est pas à même de juger si elles sont efficaces ou pas. En tout cas, de prendre des mesures, c'est effectivement indispensable.
Et Roger.
Oui, j'aimais beaucoup votre invité tout à l'heure qui disait que ça pose des problèmes surtout aux parents, plus aux parents qu'aux enfants sur le masque à 6 ans. Donc c'est vrai que dans les autres pays, il y en a même en Italie, c'est à partir de 2 ans. Oui. Donc c'est jouable. En revanche, le protocole sanitaire renforcé dans les lycées, c'est assez obligatoire. C'est-à-dire que la cantine, ils mangent tous les uns à côté des autres, sans masque. On sait que c'est comme ça que se passent les contaminations. Et puis moi qui ai une fille au lycée, je peux vous dire qu'à la sortie du lycée, on enlève les masques et on s'embrasse. Donc est-ce qu'on peut réguler ça? C'est la question qui va être posée demain.
Bien. Merci Eve pour cette intervention. Merci Gilles Langlois d'avoir été avec nous quelques instants, secrétaire national du syndicat des enseignants SUNSA et directeur donc d'une école primaire à Paris. Christian Saint-Étienne, je vous donne la parole. D'abord, je voudrais qu'on réécoute le président de la République pour bien fixer les choses sur le calendrier de ce reconfinement.
Comment cette nouvelle étape va se dérouler dans le temps? Chaque heure compte. L'ensemble de ces mesures doivent donc entrer en application au plus vite. Elles le seront dans la nuit de jeudi à vendredi. Et elles seront appliquées à minima jusqu'au 1er décembre. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année.
Voilà pour cette citation du président de la République, cette allocution du président de la République sur le calendrier. L'économiste donc Christian Saint-Étienne est avec nous ce soir. Bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
Votre réaction d'abord à ces annonces et à ce reconfinement pour une période pour l'instant d'un mois jusqu'au 1er décembre, a dit le chef de l'État.
Mon commentaire central, c'est le même que celui de Martin Blachier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbitrage risque-bénéfice qui soit clair. On a un président qui nous dit tout à coup que si on fait rien, il y a 400 000 morts. Personne ne dit qu'il faut rien faire. Il va reconfiner le pays, mais il dit, j'ajoute presque, il ose nous dire qu'il laisse les frontières ouvertes. On sait que à l'entrée à nos frontières et dans les aéroports aujourd'hui, on ne teste toujours pas les gens qui rentrent.
Il a dit qu'il y aurait des tests, obligatoires.
Mais attendez, ça fait 7 mois qu'on a cette pandémie.
Moi, j'y suis pour rien,
voilà. Et donc, c'est stupéfiant.
Ils
que
arrivent
le gouvernement
les tests
s'y mettent maintenant.
C'est vrai que ça fait 6-7 mois.
Non, mais c'est une pantalonnade totale. Les gens qui se rendent en Afrique sont testés dans les aéroports en Afrique. Quand ils reviennent ici, ils sont stupéfaits de ne pas être testés dans les aéroports français. Donc, c'est le point central de la discussion qu'on doit avoir ce soir. Je pense qu'il y avait un autre scénario possible qui n'a même pas été évoqué par le président de la République. Et pour moi, c'est une faute politique assez grave. C'est une faute stratégique. Je pense que le couvre-feu était une bonne approche. Je pense qu'il fallait l'étendre à l'ensemble du pays avec fermeture des frontières. Mais comme l'a dit le médecin tout à l'heure, c'est largement dans la sphère privée que se font les contaminations.
Christian Saint-Étienne, vous dites aussi sur l'impact économique, parce que vous faites partie de ceux qui disent attention, attention, le remède fera plus mal que le traitement. Un mois supplémentaire de blocage provoquera 500 000 chômeurs de plus et des faillites massives.
Oui.
Ça veut dire qu'on est en train, selon vous, de tuer l'économie et que vous parliez tout à l'heure du bénéfice-risque. On a pris le risque pour sauver des vies et pour désengorger nos systèmes de réanimation et nos services de réanimation, de tuer durablement l'économie, comme d'ailleurs l'a dit le MEDEF. Le risque d'effondrement.
Personne ne pense qu'il faut rien faire et personne ne pense qu'il faut laisser les médecins tout seuls face aux arrivées massives dans les hôpitaux. Encore une fois, il s'agit de prendre des mesures intermédiaires qui soient adaptées. Mais je prends l'exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est le pays qui a inventé les parlements et qui a l'habeas corpus qui permet de protéger la liberté individuelle.
Oui.
Ils viennent d'autoriser la police à entrer dans les maisons pour vérifier qu'il n'y a pas plus de 6 personnes. On sait qu'en septembre-octobre, les jeunes se sont réunis à 30 dans des studios, qu'il y a eu des fêtes à 600 personnes encore début septembre. Donc on pouvait parfaitement garder le couvre-feu en durcissant très fortement les règles pour la vie privée. Alors maintenant pour l'économie, j'avais anticipé au mois d'avril que le confinement créerait 1 million de chômeurs de plus.
Oui.
C'est exactement ce qui est en train d'arriver. Là, je prédis que ça sera 500 000 de chômeurs de plus. Là, aucun mot du président de la République pour nous dire combien de dépressions nerveuses, combien de cancers, combien de crises cardiaques, combien de suicides quand on a 1,5 million de chômeurs de plus.
Et en même temps, on ne peut pas laisser les médecins, comme l'a dit le président
de
la République,
choisir qui vit. Oui, mais on est d'accord, c'est pour ça que personne ne dit qu'il ne faut rien faire.
Et qui meurt. Vous restez avec nous, Christian Saint-Etienne. On va écouter la réaction d'Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir, monsieur le député. Merci infiniment de nous accorder quelques instants. D'abord, votre réaction. Et puis, deuxième question, je vous laisse répondre dans la foulée. Est-ce que vous voterez à l'Assemblée nationale, est-ce que votre groupe votera à l'Assemblée nationale les nouvelles mesures décidées par le chef de l'État ?
Bonsoir. D'abord, je veux penser ce soir à tous les Français touchés par ce virus, ou qui ont des proches touchés, mais également au personnel de santé qui, déjà épuisé de la première vague, fait face en ce moment même à cette deuxième vague puissante. Ensuite, vous dire une chose, c'est que le président de la République décide seul. Et alors que à l'aube du déconfinement, nous alertions sur le fait que les médecins disaient que cette épidémie pouvait être par vagues successives et qu'il y aurait une seconde vague.
Oui.
Nous estimons que rien n'a été fait depuis pour éviter que le virus circule au point où il a circulé jusqu'à aujourd'hui. La politique en matière de tests, de traçage et d'isolement a été trop embryonnaire. Il fallait faire quelque chose de massif et pour ça, il fallait le planifier. Et nous subissons donc ce soir non seulement les conséquences du virus, mais conjugué à des décisions politiques qui n'ont pas été à la hauteur.
Mais
et je ne vous parle même pas juste.
Je
vais vous répondre, mais je voudrais terminer de répondre à votre première question, puisqu'on avait posé deux. Il y a également la situation de l'hôpital qui n'est pas le fruit du hasard. Nous avons fermé, la France a fermé 100 000 lits à l'hôpital en 20 ans. Et
ouais.
M. Macron
je
a dit seul, en 2018 et 2019,
7
400 lits. Alors maintenant, allons-nous voter demain ? Vous savez, lors de la première vague, nous avions fait le choix de nous placer en situation comme si nous gouvernions le pays, c'est-à-dire faire des propositions. Et la période de confinement a été pour la France insoumise une période de travail intensive. Nous avons proposé au gouvernement 11 propositions de loi, 5 plans détaillés, 4 guides et un rapport de 180 pages d'une commission d'enquête. Tout ça peut se retrouver sur le site de la France insoumise. Tout cela a été balayé d'un revers de la main par Emmanuel
Donc
Macron,
réponse.
Son gouvernement et leur majorité. Donc nous respecterons la discipline sanitaire, mais nous ne pouvons pas donner un blanc-seing, une carte blanche à Emmanuel Macron parce que la décision qu'il prend ce soir est d'abord le fruit pourri des décisions qu'il a refusé de prendre pendant toutes ces semaines.
Bien.
Donc la discipline sanitaire en pensant d'abord à notre personnel de santé, mais pas question d'accompagner ce gouvernement parce que visiblement, de toute façon, il ne tient aucun compte de ce que les oppositions lui proposent.
Merci Adrien Quatennens pour cette réaction, député du Nord de la France Insoumise. On parlait d'économie juste avant d'entendre cette réaction politique, Emmanuel Dutheil. C'est vrai que les chiffres sont absolument faramineux. Le déficit public va se creuser de 75 milliards d'euros cette année. L'assurance chômage, même chose, 60 milliards de dettes d'ici fin 2020. Le compte de la sécurité sociale va plonger à plus de 46 milliards d'euros de déficit. Le patronat, par la voix de Patrick Martin, numéro 2 du MEDEF, disait oui, il y a un risque d'effondrement de notre modèle économique, de notre tissu industriel, de notre modèle social. Comment
Comment se remettre de ce qui est en train de se passer ?
Après, je pense qu'il faut avoir une photographie peut-être un petit peu plus globale. Il y aurait un risque d'effondrement, comme ce qu'ils disent tous, si on était les seuls à appliquer ce genre de mesures. Il faut voir que ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe à peu près partout. Et s'il y a bien quand même un point où tout le monde est à
c'est
peu près d'accord...
C'est la France la plus touchée quand même dans les pays européens et dans les
économies
européennes.
Regardez le cas en Espagne, l'économie espagnole, mais c'est un drame bien plus important que ce que nous, on est en train de vivre. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a un chômage partiel qui se poursuit, parce que les trésoreries des entreprises ne sont pas encore aujourd'hui effondrées à cause ou grâce aux prêts garantis par l'État. Je ne dis pas du tout que quand on est un petit commerçant, on n'est pas en train de vivre là un drame économique et un drame psychologique, mais l'économie n'est pas en train de s'effondrer. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on va enlever tous ces dispositifs sociaux et économiques, il n'y aura pas une grosse difficulté derrière, mais là, pour le moment, il y a un gros soutien. On estime que ce confinement va coûter entre 12 et 15 milliards d'euros par mois.
Milliards, avait dit Bruno Le Maire.
Ouais. Non, par mois. Là, 12 à 15 milliards
d'euros. Moi, je vous dis que c'est par semaine.
Par semaine,
peut-être. Sauf que, alors, disons même que c'est par semaine, 100 milliards d'euros. Bien sûr que ce serait 80 milliards à ce moment-là. C'est extrêmement important comme chiffre. Mais au vu de ce qu'on a fait jusque-là, c'est supportable. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir aujourd'hui qu'on en arrive à cette situation parce qu'on n'a pas pris les décisions qu'il fallait prendre beaucoup plus tôt, justement parce qu'ils ont espéré réussir à soutenir l'économie. C'est parce qu'on commence trop tard. À ce même micro, vendredis, quand je participais avec vous aux Grandes Voix, il y avait à chaque fois des interlocuteurs pour dire « ils en font trop ».
Le gouvernement nous a quand même envoyé des signaux. Il y a encore quelques jours, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, Djebbari, ministre du Transport, nous disait « partez en vacances, allez au théâtre,
sortez au
cinéma ».
Oui, mais il a dit sur Europe 1, Jean-Baptiste Djebbari, qu'il fallait réserver ses billets pour Noël. Et là, le président de la République laisse quand même très clairement entendre que si on a la chance de fêter Noël en famille, c'est que vraiment ce serait exceptionnel.
Réaction courte, Christian Saint-Etienne.
Oui, c'est très complexe, donc je vais essayer d'être simple, mais il n'y a pas de risque d'effondrement immédiat parce que la Banque centrale rachète les dettes des États. Mais nous sommes dans un effondrement stratégique, au sens où nos parts de marché sur le plan industriel chutent très fortement.
Pas aujourd'hui.
Attendez, excusez-moi. Au printemps, les dernières estimations montrent que le PIB français baisse un tiers de plus que le PIB allemand pour 2020. Si en plus on reconfine maintenant et que les Allemands le font moins, nos entreprises perdent des parts de marché. On annonce une aggravation du déficit extérieur de 30 milliards. Donc pourquoi il n'y a pas d'effondrement à court terme ?
Ça touche aussi des secteurs industriels d'excellence de la France. Ça touche aussi des secteurs industriels d'excellence.
Voilà, vous avez raison.
L'automobile, l'aéronautique...
Le tourisme, notre capacité dans la culture et les événements. Donc, nous sommes touchés dans nos secteurs d'excellence, effectivement. Mais il y a un autre point qu'il faut évoquer, c'est que la France a abordé cette crise dans une mauvaise position. C'est-à-dire qu'à la fin 2019, les Allemands avaient une dette publique de 60 points de PIB, mais on était déjà à 98. Avec le premier confinement, on s'attendait à 118. Avec le deuxième confinement, ça va être 125-130. Alors, pour l'instant, tant que la Banque centrale achète, on n'a pas de risque d'effondrement immédiat. Mais dans un deuxième temps, quand il y aura eu le vaccin et qu'à partir de l'été 2021, les choses iront mieux, il ne faut pas penser que l'Europe du Nord ne va pas nous demander des comptes. Nous demander à ce moment-là des ajustements considérables avec un appareil de production qui sera affaibli.
Oui.
Donc c'est la difficulté de la compréhension de ce problème. L'effondrement ne se fait pas à court terme, il se fait en relatif dans un second temps en stratégique.
Votre message et votre discours, ça prendra... des mois et peut-être des années, mais il y aura un moment
affaissement
de notre économie.
Déjà dans 18 mois, on verra que la France a descendu une marche de plus que les Allemands et que l'Europe du Nord. Et ça va nous coûter très cher sur le plan stratégique. On ne pourra pas continuer d'avoir une politique militaire et des ambitions géostratégiques fortes avec un déficit public qui va tourner à 7-8 points de PIB et avec un déficit extérieur à 2-3 points de PIB.
Alors, le président de la République qui a tout de même voulu envoyer une lueur d'espoir au milieu de toutes ces annonces sur les assouplissements de ce reconfinement par rapport au confinement qu'on a connu au printemps dernier. On écoute le chef de l'État.
Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, l'activité continuera avec plus d'intensité. Ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer.
Voilà, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer, en référence à l'élément de langage, au mot utilisé par le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Une réaction politique également avec nous, Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains. Bonsoir Monsieur Abad, question simple, est-ce que vous voterez demain à l'Assemblée nationale ces mesures annoncées ce soir par le chef de l'État ?
Écoutez, nous avons prévu une réunion de groupe demain matin pour décider de la position de notre groupe. Ce qui est certain, c'est que nous voulons être une force de proposition et pas dans une opposition systématique ni caricaturale. Et donc très clairement, nous disons aujourd'hui qu'il n'y avait plus d'autre choix que ce reconfinement, parce que le déconfinement a échoué, parce qu'il ne s'est pas fait avec suffisamment de protection, avec suffisamment de traçage et d'isolement. Et c'est malheureusement la conséquence directe de cet échec qui nous conduit à cette solution de reconfinement qui est très difficile pour les Français. Et ce soir, je pense aux Français qui apprennent la brutalité de cette décision.
Donc, a priori, le groupe LR, et vous y êtes plutôt favorable, va voter ou vous allez vous positionner en faveur d'un vote pour appuyer ces mesures,
si je vous entends bien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. La position de vote sera déterminée demain matin. Ce que nous disons simplement, c'est que nous avons toujours pris nos responsabilités, mais nous avons des réserves quant aux choix qui ont été faits, quant à la stratégie sanitaire du gouvernement qui est un échec, et donc nous n'avons plus confiance dans ce gouvernement. Et donc à partir de là, il nous faut avoir une stratégie différente pour que lors du prochain déconfinement, on ne se retrouve pas dans la même situation et avec, à la fin des fins, un troisième confinement qui serait absolument dévastateur. Donc c'est ça notre position ce soir.
Merci beaucoup pour cette réaction, Damien Abad, chef de file des députés Les Républicains. Martin Blachier, médecin et épidémiologiste, vous souhaitiez réagir et puis je voulais vous poser une question par anticipation sur les EHPAD. Ça, c'est une annonce aussi assez nouvelle par rapport au confinement et au drame qu'on avait connu dans les maisons de retraite et les EHPAD lors du premier confinement, avec quasiment la moitié des morts qui s'étaient déroulées malheureusement dans les EHPAD. Cette fois, le président de la République a dit qu'il resterait ouvert et qu'on pourrait visiter nos anciens.
Mais là, il est totalement dans la bonne réflexion qu'il faut avoir, c'est-à-dire il pèse le pour et le contre de fermer les EHPAD. Et il se dit, c'est tellement dramatique d'empêcher les gens de visiter qui sont dans les derniers mois de vie, que ça ne vaut pas le coup d'éviter quelques infections pour ça. Donc il pèse le pour et le contre. Et ça revient sur la deuxième réflexion que je voulais faire. C'est, moi, je suis surpris par la manière dont sont prises les décisions. Je ne critique pas la décision qui a été prise. Mais il présente les choses en disant le confinement des populations vulnérables, c'est impossible parce que les populations vulnérables ont besoin de leur entourage, alors que de toute façon, elles vont être confinées. Donc ça, je n'ai pas compris. Et puis parce que ce serait stigmatisant, ou parce que ça touche aussi parfois des personnes plus jeunes. Mais il faut donner des chiffres. C'est-à-dire, la différence entre un reconfinement complet et la protection des populations vulnérables, est-ce qu'ils l'ont quantifié ? S'ils nous disent demain, la différence entre les deux scénarios, c'est 5 personnes de 35 ans qui vont être hospitalisées en réanimation. Dans ce cas-là, quand vous le faites en qualitatif, il a raison. Effectivement, 5 personnes, c'est 5 personnes jeunes qui vont aller en réanimation. Mais la question, c'est est-ce que ça vaut le coup pour 5 personnes jeunes qui vont aller en réanimation d'assumer la différence qu'il y a entre un confinement complet et le confinement de la population vulnérable. C'est ça qu'on attend. Sinon, comment il dit qu'il pèse le pour et le contre s'il n'a pas les nombres qu'il y a à la fois sur le coût du confinement et à la fois sur l'impact sanitaire.
C'est pour ça que vous pensez, peut-être sans le dire, qu'au bout du bout, ce reconfinement, c'est une forme d'aveu d'échec ?
Non, c'est pas ça. Moi, je critique pas le gouvernement sur le fait qu'on doit se reconfiner aujourd'hui. Je pense que c'était très difficile à éviter, que ça a été effectivement très brutal. J'ai été parmi ceux qui ont été extrêmement surpris par la brutalité de ce retour. La seule chose que je dis, c'est la manière dont on prend les décisions. On ne peut pas faire du sentiment, comme un peu ce que j'ai entendu là, et ne raisonner qu'en qualitatif. C'est-à-dire que ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il faut apprendre à raisonner dans le gris. C'est ça, pour moi, c'est ça du courage. Et là, honnêtement, cette décision, je ne vois pas où est le courage, parce que c'est trop extrémiste, je trouve.
Ève Roger.
Je trouve qu'il y a une question qu'on ne s'est pas encore posée, c'est est-ce que tous ces assouplissements vont provoquer des effets de ce reconfinement plus tardifs ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va perdre du temps finalement avec ces assouplissements ?
Par exemple, si on laisse les cantines ouvertes dans les usines, si elles sont ouvertes, on sait que c'est un des, vous le savez mieux que moi, mais c'est un des clusters les plus importants, la cantine.
Après, est-ce qu'on peut avoir un effet ? On a dit 15 jours et puis maintenant on dit un mois.
Mais justement, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est des décisions qui sont prises sur des principes. Et je pense que c'est exactement ce genre de moment où il ne faut pas prendre des décisions sur des principes, Il faut prendre des décisions rationnelles.
Mais les décisions sont prises, on va être obligé de les appliquer. Réponse, est-ce qu'il y a un risque
d'avoir des effets retardés,
comme le dit si justement Ève Roger, si on laisse ouvert une partie des entreprises, les lycées, les collèges, les écoles, ou est-ce que dans 15 jours, comme on nous le dit systématiquement, ça produira les premiers effets, et puis dans un mois...
Alors sur un plan épidémiologique, c'est pas que ça va produire un effet retardé, c'est que ça va baisser l'intensité de l'effet, c'est-à-dire que le pic, il montera un petit peu plus haut, plus vous laissez des contaminations se faire, et plus ça va monter aussi haut. La dynamique, elle est dictée par le moment où vous appliquez vos mesures. Donc ça ne va pas retarder, simplement ça va baisser l'intensité de l'effet que vous avez sur les courbes épidémiques.
Quand le président de la République nous dit « je garde espoir de célébrer en famille Noël et les fêtes de fin d'année », est-ce que c'est du domaine du possible encore ou pas du tout ?
Oui, c'est du domaine du possible, parce que effectivement, les courbes vont infléchir dans 10 jours, 2 semaines, que Noël est encore loin, donc on aura déjà probablement bien diminué à la fin de l'année. Donc ça me paraît pas totalement délirant.
Christian Saint-Étienne.
Oui, mais par rapport à ce qu'on est en train de dire, si à Noël, à nouveau, on se réunit à 20 dans les salles à manger sans masque, on repart pour un troisième confinement fin janvier. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis totalement d'accord.
Non, mais c'est sûr que c'est le scénario le pire qui est en train de se produire. C'est la stratégie du stop and go.
Ce dont on discute, est-ce que c'est le plus efficace et le plus intelligent ? C'est ça dont on discute. C'est-à-dire que si pour éviter 5 trentenaires en difficulté, on met 500 000 personnes au chômage, qui pèse le pour et le contre ? Oui. C'est ça qu'on est en train de dire. Et là, il ne nous a pas donné d'indication sur ça. Il nous a dit « la vie humaine compte plus que tout ». Mais néanmoins, quand il envoie des soldats au Mali, il sait très bien qu'il y en a qui vont être tués.
Oui.
Donc là, il pèse bien le pour et le contre. Pourquoi on parle à la population comme si c'était des enfants plutôt que des adultes ?
Le niveau d'acceptabilité, d'ailleurs, de la part des Français, comment vous le ressentez par rapport à ces annonces ? Les Français qui ont d'ailleurs été... qui ont respecté les règles. Hein. On a beaucoup dit, les jeunes, certains... d'ailleurs, le président l'a dit, on n'a peut-être pas collectivement respecté les règles. Moi, je trouve que les règles ont quand même été plutôt bien respectées. Le port du masque est respecté. On n'est pas comme en Allemagne avec des manifestations anti-masques. On n'est pas comme en Italie avec des manifestations anti-couvre-feu. L'acceptabilité des Français, est-ce qu'elle sera la même qu'au printemps dernier, Martin Blachier, de votre point de vue ?
Déjà, c'est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que l'acceptabilité des gens qui ont un petit commerce, elle est extrêmement mauvaise. Les gens qui ont des restaurants, pour eux, c'est un drame. Après, il y a un certain nombre de gens qui sont dans des grandes entreprises qui vont simplement ne pas avoir à se déplacer au bureau. Pour eux, l'acceptabilité, elle est très bonne. Les parents, ils sont contents de pouvoir avoir leurs enfants qui vont à l'école, ils vont pouvoir faire du télétravail. Donc, en fait, je pense que c'est extrêmement hétérogène. Mais je pense que c'est dans le temps que l'acceptabilité va changer et que la perception des décisions qui sont prises aujourd'hui va changer.
Merci infiniment à tous les trois et à tous les quatre d'avoir été ce soir avec nous en plateau pour décrypter et expliquer ce reconfinement donc, qui s'annonce à partir de la nuit de jeudi à vendredi avec une tolérance, a dit le président de la République, jusqu'à dimanche. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, Julien Pierce pour le rappel de ces informations précieuses. À demain. Europe 1.